Les Canuts, troisième partie, chapitre 12. Vers 9 heures du soir, un roulement de tambour et de violentes clameurs retentirent sur la place. Marius Herbollier sortait pour aller chercher des vivres. À la lueur des feux, ils virent une bande d'insurgés précédée d'un drapeau rouge et entourant deux hommes qu'ils ne purent distinguer. Le chef, portant une casquette écarlate et une ceinture rouge, s'avança, un sabre à la main, vers les hommes de garde qui se levèrent à son approche. « Qui vive ? Association, résistance, courage. Citoyens, où est le général Lagrange ?»«
À la mule blanche, mon capitaine. »
Il soupe avec les citoyens chefs d'état-major. Le capitaine fit signe à sa bande de le suivre et, faisant demi-tour, se dirigea vers le passage voûté qui conduisait à la cour de la mule blanche. À ce moment, Herbollier vit son visage en pleine lumière.
« Tiens !»
dit-il à Marius.
« C'est Pellegrin, ce capitaine !»
Marius se souciait peu que ce fût Pellegrin ou un autre. Il avait faim et entraînait Herbollier vers le café Cantaloupi. Comme il traversait la place, il se contenta de répondre.
« Celui-là, c'est un ambitieux, un intrigant. Je m'étonne qu'il n'ait pas pris tout de suite le titre de général. »
Mais les insurgés que le roulement de tambour avait attirés hors du café demeuraient sur le seuil, prêtant l'oreille. Dans la cour de la mule blanche, les cris de la bande redoublaient.
« Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! »
« Ah, canaille ! Espion ! Crapule ! Vous ne vous échapperez pas !»
La voix de Pellegrin dominait le tumulte. « Il faut pourtant savoir ce que c'est !» dit un des insurgés debout devant le café.
« Allons !»
Ils rentrèrent prendre leurs armes et coururent avec Marius Herbollier. La bande de Pellegrin avaient déjà pénétré dans une salle basse de l'hôtel de la Mule Blanche. Ils y entrèrent à leur tour. Le drapeau rouge était déposé dans un coin à côté du tambour. Harassés de fatigue, les hommes de la bande avaient jeté leurs fusils pêle-mêle et s'étaient assis sur les tables, sur les escabeaux, même à terre, le long des murs. On attendait Lagrange, qui soupait avec les chefs dans une salle voisine. L'entrée des nouveaux venus parut déplaire à Pellegrin.
Nous étions assez nombreux,
leur dit-il sèchement.
Au reste, nous ne venons ici que pour prendre les ordres du général en chef.
Et, presque seul, debout, au milieu de ses hommes, sa casquette rouge rejetée en arrière, il marchait d'un pas fiévreux.
Il est possible que vous n'ayez pas besoin de nous, citoyens, reprit vivement Herbollier, mais nous avons la garde du quartier et nous avons voulu savoir ce que signifiaient les cris que nous avons entendus. »
Derrière eux, la voix de Lagrange fit cesser la querelle.
« Eh bien, citoyens, qu'y a-t-il donc ?»
Les hommes s'écartèrent pour livrer passage au général, qui avançait, suivi d'Hugon. Pellegrin, tête nue, s'approcha.
« Mon général, dit-il, nous vous amenons des espions. Nous n'avons pas voulu statuer sur leur sort avant d'avoir pris vos ordres.
Où sont ces hommes ?
Les voici, mon général.
Dans le fond de la salle, mal éclairée, Pellegrin désignait deux hommes attachés à une colonne, les mains derrière le dos. L'un, qu'on voyait de face, était coiffé d'une casquette galonnée et portait des favoris roux. L'autre, à moitié dissimulé derrière la colonne, baissait la tête sous son chapeau dans une attitude d'accablement.
« Et dans quelles circonstances les avez-vous arrêtés ?»
Pellegrin s'empressa de répondre, se trouvant avec ses hommes en reconnaissance sur le quai Saint-Vincent que les troupes avaient abandonné depuis la nuit. Ils avaient vu venir, par le pont de la Feuillée, un cabriolet traîné par un cheval. Ces deux individus étaient assis sur la banquette.
au cri de « Qui vive ?» Il n'avait pas répondu, et celui qui portait une casquette avait cinglé d'un coup de fouet sa bête qui avait pris le galop. Aussitôt, les citoyens s'étaient jetés à la tête du cheval et l'avaient arrêté, non sans peine. Interrogé, l'homme à la casquette avait répondu qu'il se nommait Souliard, qu'il était courrier de la Malle-Poste et venait à Lyon prendre les ordres du directeur des postes. Quant à son compagnon, des citoyens avaient affirmé reconnaître en lui le procureur du roi. On les avait fouillés. Tous deux avaient leurs poches bourrées de papiers, de dépêches suspectes. Sans retard, on les avait conduits au poste le plus voisin, celui de la place Satonnet, où se trouvait le citoyen commandant Marinier. En route, Souliard avait fait une première tentative de résistance lorsqu'on lui avait arraché le portefeuille contenant les dépêches. Au poste, le portefeuille avait été ouvert, les dépêches décachetées. Déjà, un citoyen monté sur la table avait commencé à en donner lecture, mais quelques-unes étaient chiffrées. N'était-ce pas la condamnation des deux inconnus? Des cris de mort s'étaient élevés contre eux. Quelques-uns avaient demandé qu'on les fusillât, séance tenante. Toutefois, le citoyen Marinier avait décidé que les deux prisonniers seraient immédiatement conduits au quartier général et les dépêches soumises au comité exécutif. Les rues qui mènent à la Croix-Rousse sont donc libres à cette heure? Mon général, les troupes, craignant sans doute d'être surprises, se sont concentrées depuis la nuit sur la place des Terreaux et la place de la Comédie. On peut donc circuler sans encombre par les petites rues, pourvu qu'on n'éveille pas l'attention. C'est ce que nous avons fait. Ces deux hommes ont été bâillonnés pendant le trajet et... Ainsi, les rues sont libres? Et ni Carrier ni Marinier ne se sont avisés de m'envoyer des nouvelles? Où en est-on là-haut? La situation est bonne, mon général. On n'a pas perdu de terrain. Les hommes sont pleins de courage. Les munitions ne manquent pas. Le citoyen Carrier se propose d'attaquer demain les Terreaux. Je vais lui envoyer un homme. Où est-il? Son quartier est au café Bresner. C'est bon. Vous avez les dépêches dont vous parlez? Les voici, mon général. Lagrange prit le portefeuille. S'accoudant à une table, il l'ouvrit et parcourut rapidement les dépêches qu'il communiqua l'une après l'autre à Hugon. Ils échangèrent quelques mots à demi-voix. Puis Lagrange se releva et s'approcha des prisonniers. L'homme à la casquette galonnée lui demanda. « Ces dépêches me seront-elles rendues ?»« Non, je les garde. » « Alors qu'on m'en donne un reçu !» s'écria Souliard. « Vous n'êtes pas en situation de parler sur ce ton. Je vous en préviens !» répondit Lagrange d'une voix hautaine. « Dans votre intérêt, dit à son tour Pellegrin, je vous conseille de vous montrer plus humble. »« Je n'ai rien à me reprocher, » reprit Souliard. « J'ai fait mon devoir, voilà tout. » À ces mots, des hommes ivres d'eau-de-vie et de poudre, encouragés par l'attitude des chefs, se levèrent et, les poings tendus, « Ton devoir, canaille! Ton devoir! Répète-le donc! Sacré canaille! Espion! Espion! Oui, espion! Si tu ne l'étais pas, tu n'aurais pas essayé de fuir! Vous êtes deux espions, deux crapules! Vous méritez la mort, la mort !» Mais la voix de Lagrange domina le vacarme. « Taisez-vous ! Allons, reculez !» À coup de poing, il éloigna les plus rapprochés, et le regard plein de colère, il ajouta. « A-t-on fini de brailler ? Qui est-ce qui commande ici ?» Au bruit, les chefs qui soupaient dans la salle voisine étaient accourus. Tous étaient là, les deux cocidières, Paco, le capitaine Tourès, Ravachol, Granier de la Glaneuse, Bertholon, d'autres encore, seins d'écharpes rouges, des sabres aux côtés, coiffés de casquettes rouges, de bonnets de police à glands d'argent, de chapeaux ornés de rubans rouges et verts. Les énergumènes n'écoutaient pas la voix de Lagrange et se ruaient de nouveau sur les prisonniers.
Ce sont des espions. Ils appartiennent à la justice du peuple. »
Très pâle,
Souliard faisait des efforts pour briser la corde qui le retenait à la colonne. L'homme au chapeau avait relevé la tête.
« Si nous sommes des espions, dit-il, prouvez-le. La justice du peuple est-elle aveugle ? Tu es le procureur du roi. À mort ! À mort !
Non, je ne suis pas le procureur du roi. »
Les hurlements redoublèrent. Lagrange, Hugon, Paco se jetèrent devant les agresseurs, essayant encore de les repousser. Mais ils étaient impuissants à les contenir. Déjà, quelques misérables saisissant les prisonniers coupaient les cordes qui les attachaient à la colonne et brutalement les tiraient à eux. D'autres avaient repris leurs armes et, entourant les deux hommes, se préparaient à les traîner dehors. Pelgrin, derrière eux, crispait les lèvres avec un rire mauvais.
« à mort, les lâches !»
La bouche écumante de rage, les yeux injectés de sang, trois ou quatre insurgés s'avancèrent, levant des sabres sur la tête des prisonniers. L'homme au chapeau fut culbuté d'un coup de crosse et terrassé violemment. Un sabre s'abattit sur l'épaule de Souliard. Le sang jaillit. La victime s'affaissa. La vue du sang acheva d'enivrer les hommes.
« Faut les finir ! Faut les tuer ! À mort ! À mort !»
Du fond de la salle, péniblement, Marius et Nerbollier s'étaient frayés passage. Ils venaient aider les chefs à protéger les prisonniers.
« Au nom de Dieu !
Cria Nerbollier.
Ne frappez pas ! Ne faites pas couler le sang !
Il n'en coule que trop dans les rues !
S'écria Marius.
Ne souillez pas votre cause par des assassinats !
Le retournant, furieux, un homme se précipita sur lui, le sabre levé.
« Tais-toi ou je te frappe !»
Mais Marius venait de voir à terre devant lui l'homme au chapeau. Il tressaillit, poussa un cri de surprise, puis, d'une voix claire,
« Frappe, si tu veux »
dit-il.
« Peu m'importe. Cet homme est mon oncle. On l'accuse injustement. Je le défendrai contre vous tous s'il le faut. »
Et la tête haute, les yeux dans les yeux de l'énergumène, Marius attendit.
« Je te soutiendrai, moi, »
reprit Nerbollier.
« Qui donc es-tu pour parler ainsi ? »
demanda l'ivrogne s'enrouant de colère. « Marius Jacquemin, chef de section. Des premiers, j'ai pris les armes, dans la rue Saint-Jean. Avec une poignée d'hommes, j'ai défendu le passage de Largue. Je ne l'ai abandonné que devant la mitraille. Et le général en chef m'a confié la garde de l'église Saint-Bonaventure. Voilà qui je suis. Je n'ai pas peur de toi, citoyen. Je n'ai peur de personne. Aux journées de novembre, j'avais déjà fait mes preuves. Peux-tu en dire autant ? » Déconcerté, l'ivrogne abaissa son sabre et, promenant autour de lui son regard trouble, parut consulter les autres. Lagrange, profitant de cette minute de calme, intervint de nouveau énergiquement.
« Allons, éloignez-vous et laissez ces hommes tranquilles. Il est honteux de frapper des malheureux sans défense. »
Marius s'était penché vers M. Victor Jacquemin. Un genou à terre, il le questionnait. Souffrait-il ? Où avait-il été frappé ? Le visage blême, la respiration courte, celui-ci répondit d'une voix entrecoupée. Il lui semblait qu'il avait une côte brisée et la poitrine lui faisait mal. Mais il ne pouvait rester là, exposé aux brutalités de ces hommes. Avec précaution, Marius le souleva et l'aida à se mettre debout. Pendant ce temps, Nerbollier relevait Souliard, qui s'était évanoui, et le traînait dans un coin de la salle.
« Vous m'avez compris ? »
insista Lagrange.
« Éloignez-vous, sortez !»
Il avait retrouvé son ascendant sur ces hommes. La plupart, obéissant à son geste impérieux,
se dirigèrent vers la porte tête basse et grommelant. Du côté de Pellegrin, Marius entendit murmurer le mot de « trahison ». Trois ou quatre insurgés jetèrent leurs armes avec colère.
« Oui, » dit l'un, « c'est une trahison. À quoi bon les armes, puisque les chefs font le jeu du gouvernement ?»«
Vous mentez !»
s'écria Hugon.
« Les chefs, » reprit Lagrange, « ne trahissent pas. Ils ne veulent pas de brutalité inutile, voilà tout.
Ces hommes ne seront pas remis en liberté avant d'avoir donné des explications satisfaisantes. Ils restent mes prisonniers, et je les fais garder à vue dans cet hôtel.
Sortez, et faites votre devoir, je ferai le mien. »
La salle se vida peu à peu, dans un murmure de voix sourde et un piétinement de souliers ferrés.
« Ainsi, mon général, » dit Pellegrin froidement, « je n'ai plus rien à faire ici. »«
Non, non, vous pouvez partir. »
Mais, s'approchant de lui, les yeux dans les yeux, Lagrange ajouta sévèrement à demi-voix.
« C'est vous qui avez provoqué cette scène. Quelle haine avez-vous donc contre ces hommes ?»
« Quelle haine j'ai contre eux ?» reprit Pellegrin, jetant à Lagrange un regard aigu.
« Eh bien, oui, j'ai voulu me venger de M. Victor Jacquemin. Le courrier des postes, je ne le connais pas. »
Et l'entraînant dehors, pensant se justifier, il donna libre cours à ses confidences et dit les motifs de sa haine, ses déboires, ses humiliations, son désir de vengeance, qui avait tout dominé dans son cœur, l'avait jeté dans le parti de la République et lui avait fait saisir, avec une joie féroce, l'occasion de terrasser son ennemi en le livrant à ses fous furieux. Ils étaient arrivés sur le seuil de l'hôtel. Les bras croisés, Lagrange le considéra un instant d'un regard chargé de mépris. Quand Pellegrin eut fini de parler,
« Malheureux, » dit Lagrange. Vous vous êtes enrôlé sous le drapeau de la République, mais vous avez l'âme d'un despote et le cœur d'un traître. Allez, faites-vous tuer demain, sacrebleu !»«
Je vous salue, mon général, » murmura Pellegrin d'une voix sifflante. Au milieu de la cour, dans la projection de lumière qui sortait de la porte ouverte, on voyait briller le cuivre du tambour et s'agiter la loque rouge au bout de sa hampe. Les insurgés s'impatientaient. Ils n'avaient pas mangé depuis le matin, et l'eau-de-vie qu'on leur avait fait boire leur brûlait l'estomac. Ils commençaient à maugréer contre leur capitaine, qui se fichait d'eux et ne les avait pas soutenus tout à l'heure. Pellegrin les rejoignit.
Ils se remirent en marche
et bientôt disparurent sous le passage voûté.
« Le misérable !» grommela Lagrange, rentrant dans l'hôtel.
On avait apporté des matelas et, sur des tables réunies, on avait étendu les deux blessés. Des servantes préparaient des compresses. Souliard était revenu de son évanouissement. Nerbollier avait coupé ses vêtements avec des ciseaux et, à l'aide d'un mouchoir, étanchait le sang qui coulait de la blessure. À côté, Marius avait ouvert le gilet et la chemise de son oncle et appuyait doucement sur les points douloureux, cherchant à se rendre compte de l'état de la fracture. M. Victor Jacquemin avait fait demander un médecin qui demeurait dans le voisinage. Sa respiration était saccadée. De temps en temps, il retenait un gémissement. Ses yeux s'injectaient de sang. Ses pommettes s'empourpraient. Il avait une ardente fièvre. Et, regardant Marius, il répétait tout bas.
« Brave, brave garçon, va. J'ai eu de grands torts à l'égard de ton père. Je les expie aujourd'hui. Ne parlez pas, mon oncle, ça vous fait mal. »
Il ne restait plus dans la salle que quelques-uns des chefs. Ils avaient allumé leurs pipes et se promenaient silencieusement. Lagrange alla droit à M. Jacquemin et durement lui demanda.
Ah ça, dites-moi, citoyen, d'où veniez-vous? Et comment vous trouviez-vous dans le cabriolet du courrier des postes?
Monsieur Victor Jacquemin se souleva péniblement sur le matelas pour voir qui lui parlait. Quand il eut reconnu Lagrange,
« Monsieur, dit-il, je venais de ma maison de campagne de Limonest, où j'avais conduit ma famille, et je rentrais à Lyon. »
Il s'expliqua. Son départ s'était fait précipitamment, à la veille de l'insurrection. Il n'avait eu d'abord qu'une pensée, éloigner sa femme et sa fille. Mais, dans la crainte du pillage et des incendies, il avait résolu de revenir au plus tôt, mettre en sûreté ses marchandises et ses valeurs. Cette expédition ne pouvait s'accomplir que la nuit, puisqu'on se battait tout le jour. Il avait donc profité du courrier des postes qui passait le soir à Limonest et qui devait repartir de Lyon à 4 heures du matin. Oppressé, M. Jacquemin s'était tu. Le médecin venait d'entrer et s'était approché d'abord de Souliard, qui avait perdu beaucoup de sang et s'évanouissait une seconde fois.
« La blessure est profonde, » murmura le docteur. Lagrange, se penchant vers M. Jacquemin, reprit.
« Ne connaissiez-vous pas le citoyen qui vous a arrêté ?»«
Pellegrin ? » fit le blessé avec un signe de dégoût.
« Ah, si je le connaissais !»« Je ne m'explique pas, monsieur, l'étrange hasard qu'il l'aurait placé sur ma route. J'ai la conviction qu'il était averti de mon départ. Depuis hier, le village de Limonest est envahi par une bande de pillards qui sont venus réquisitionner des armes. Dans le nombre, j'ai cru reconnaître un malfaiteur du nom de Bavoira, dit Belœil, avec l'aide duquel Pellegrin l'an passé, j'en ai maintenant la certitude, tenta d'assassiner M. Johannes Clairin, qui était sur le point d'épouser ma fille. Or, ce soir, au moment où je prenais place dans le cabriolet du courrier, j'ai vu, sous la remise de l'auberge du Soleil d'Or, un homme monter à cheval. Cet homme, dont je n'ai pu distinguer les traits, était vêtu comme l'individu qui m'avait paru être Bavoira. Il est parti à toute bride dans la direction de Lyon et nous n'avons pas tardé à le perdre de vue. « Les canailles !» s'écria Marius. Lagrange eut une crispation du visage et parut réfléchir. Marius le regarda, puis, avec hésitation,
« Mon général, dit-il, je crains que Pellegrin, n'ayant pu se venger sur mon oncle, n'essaie avec sa bande d'incendier son magasin. Cet homme est capable de tout. Voulez-vous m'autoriser à faire ce que mon oncle ne peut faire lui-même, puisqu'il est blessé ?»«
Allez, répondit Lagrange. « Mais soyez à votre poste avant le jour, car demain ça chauffera de bonne heure. »«
Je vous le promets, mon général, et je vous remercie. »
Lagrange s'approcha du docteur.
« Eh bien, dit-il, que faites-vous de ces blessés ?»«
Je voudrais les faire transporter à l'Hôtel-Dieu. La blessure de Souliard est grave. »«
Mais vous avez raison. Ils ne sont pas en sûreté ici. Demain on s'y battra. » J'ai des hommes et des civières à votre disposition. »
Sur un ordre de Lagrange, un insurgé sortit et ramena 4 porteurs.
« Souliard d'abord, dit le docteur.
« Et mes dépêches, demanda le blessé.
« Ne m'en donnera-t-on pas des charges ? Il me faudrait un titre pour en expliquer la disparition auprès du directeur de la poste.
« Donnez un reçu. « Quelqu'un, dit Lagrange.
« Moi, je tombe de fatigue, je vais me reposer quelques heures. »
M. Victor Jacquemin avait attiré de nouveau Marius près de lui.
« Ainsi, murmura-t-il, tu irais vraiment me rendre ce service ?»«
Bah, certainement, mon oncle. Vous n'avez qu'à m'indiquer. »«
Ah, brave garçon, va.
Eh bien, écoute. » Ravachol s'était assis à une table et avait griffonné quelques lignes. Quand il eut posé la plume, il se leva.
« Voilà l'affaire, »
dit-il, s'approchant de Souliard. Et il lui lut ce qu'il avait écrit.
« Les lettres que les staffettes du gouvernement apportaient ont été arrêtées par
par le peuple à force d'armes. Tout le peuple a signé. Fait au quartier général, le... »
Souliard prit le papier et l'examina comme s'il eût voulu faire une observation.
« Allons, en route, » reprit le docteur. « Ne perdons pas de temps. »